La sortie d'une certaine intransitivité littéraire. C'est ce qui nous permet de penser à la fois le pouvoir politique de la littérature, l'inscription de l'écrivain dans des formes d'action restreinte, et en réalité pas si restreinte, puisque lorsque l'écrivain travaille à faire du lien social, travaille avec les communautés, se retrouve dans un atelier d'écriture, il y a une action tout à fait concrète au sein du corps social, en coordination avec les institutions, et ces formes de remédiation symbolique que les écrivains veulent opérer lorsque ils prennent à charge d'évoquer ces grandes questions morales ou sociétales dans leur récit, dans la mise en fiction de leur récit. Donc le point commun vraiment, c'est le cadre de cette fin de l'intransitivité qui a été quand même ce avec quoi nous avons construit l'idée moderne de littérature. Hein, l'idée moderne de littérature, elle émerge de mot littérature hein, dans son usage moderne, c'est 1800, c'est Madame de Staël, c'est un retour d'Allemagne où Madame de Staël revient avec l'héritage kantien, hein, l'autotélisme, l'autonomie de l'art, le combat contre l'utilité, contre l'instrumentalisation morale de l'art, et cette autonomie, cette conception esthétique de la littérature comme étant sa propre fin, aboutira à l'art pour l'art, paradigme esthétique qui me semble encore informer jusqu'à très, très tardivement nos représentations de la littérature. Lorsqu'on voit des écrivains qui avancent l'idée que le langage en soi, hein, et que le travail du langage en soi en dehors du travail de représentation peut être une manière d'interroger la société, de faire de la politique, de mettre en crise les discours sociétaux, de lutter contre le storytelling. Il y a une foi, hein, une foi extrêmement forte dans un travail qui est fondé sur une politique de la forme, pourrait-on dire, hein, et pas seulement une politique de la représentation. Donc je crois que ce paradigme esthétique reste très, très actif et qui se confronte aujourd'hui à l'extension du champ littéraire en des formes d'action, d'intervention, en une manière tout à fait originale, je crois, de rappeler un certain nombre de pouvoirs de la littérature, soit dans un credo néo-humaniste, hein, où la littérature va servir à restaurer la communication, hein, vous savez, ce mot que l'intransitivité avait banni. Hein, on revient à l'idée que la littérature est une communication et pas seulement ce message in absentia tellement bien défini par Barthes lorsqu'il opposait la communication des écrivains. Hein, non, non, on revient à l'idée que l'écrivain soit celui qui parle, hein, qui s'adresse, qui soit inscrit dans un lieu, dans un contexte, dans un rapport à un public qui peut être un public défini, qui va lui-même être touché, hein, et qui ne va pas être simplement dans la réflexivité d'un langage s'interrogeant sur son propre fonctionnement et pouvant accessoirement, éventuellement, hein, dire quelque chose de subversif à la société par sa radicalité même. Je crois que ce modèle-là se voit vraiment renversé par un appel à la fois dans les discours médiatique sur le besoin de littérature, le lire qui vous rend, vous permet d'être meilleur, de vivre plus vieux. Un discours aussi, je crois, des écrivains qui, de plus en plus, sont dans un rapport plus étroit à des lecteurs qui leur disent, ben voilà, votre livre m'a permis de me confronter à la question d'Alzheimer, de la mort, de la solitude, du divorce, etc. Et je crois que ce rapport d'interaction plus étroit avec les écrivains leur permet de se rendre compte qu'ils ne peuvent plus être dans une sorte de tour d'ivoire à refuser les mots de la tribu, mais que, ils agissent sur les consciences, ils agissent sur les âmes, et que de ce point de vue-là, ils n'ont pas à avoir honte, finalement, de la portée, hein, de l'utilité, ce mot qui avait été vraiment banni du champ esthétique, de l'utilité de leur art. Et c'est donc ces formes d'utilité, je crois, on retrouve aujourd'hui, elle commence à nous toucher dans l'université, hein, puisque de plus en plus nous sommes appelés non seulement à être dans des domaines, des départements qui travaillent sur l'unicité, sur l'écart, sur la retraite par rapport au monde, mais nous sommes appelés, hein, à montrer comment la littérature, par exemple dans les medical studies, dans les medical humanities, comment la littérature elle fait sens, par exemple, dans un processus de soins. Nous sommes appelés à discuter avec les sociologues ou avec les anthropologues pour montrer que la littérature elle fait sens dans des analyses de terrain concrètes et qu'elle peut participer d'une manière de reconstruire des villes du futur, des villes intégratives, des villes réhumanisées. Je crois vraiment que les départements de l'aide sont confrontés à ce passage, hein, de cette grandiose insularité où, à la rigueur, ils pouvaient donner des leçons à tout le monde au nom du tournant linguistique en déconstruisant les autres discours, mais reposer quand même sur l'idée que c'était dans le langage et dans le travail du langage que se trouvait leur légitimité, à un moment vraiment très, très, très différent, où à travers ces études culturelles, à travers ces rapports renouvelés avec la science, avec les sciences cognitives qui viennent nous parler de la manière dont la littérature fait quelque chose au cerveau, a fait quelque chose dans la longue histoire de l'évolution humaine, je crois que les départements de littérature sont confrontés aussi à cette question de l'utilité, et nombreux aussi sont désormais investis dans des projets intégrés de résidence d'écrivains, d'écriture créative, dans lequel les universités vont accompagner des individus dans la manière de se réapproprier leur subjectivité, leur inscription historique, géographique. Et donc, je crois que c'est vraiment un mouvement commun. Hein, et en fait, je prépare un livre qui sera sur cette évolution de l'idée de littérature, cette fin, hein, du paradigme esthétique. Ça ne se fait pas sans conflit. Hein, beaucoup d'écrivains encore flattent ou une part d'eux-mêmes flattent l'idée qu'ils ne sont pas soumis aux règles communes du monde, que leur rapport au monde n'est qu'un rapport critique, qu'ils disposent d'un magistère lié à ce qu'on a pu, ce que Nathalie Hennick appelait le paradigme vocationnel de la littérature, qui en fait des gens un peu à part, qui auraient le privilège de faire partie d'un happy few, imposant faire se confronter des lecteurs à la difficulté, à l'hermétisme. Mais je crois que ce paradigme se trouve exposé à une autre conception néo-humaniste, si vous voulez, de ce que c'est que l'écrivain dans ce rapport aux grandes questions philosophiques et morales, mais aussi vraiment dans le moment contemporain à toute une série de problématiques liées aux crises économiques, aux crises symboliques, aux crises territoriales, hein, aux crises collectives, pourrait-on dire, mais aussi à des questions qui affectent désormais l'individu confronté aujourd'hui à un champ d'assignation à être lui-même. Hein, je crois que vraiment la construction, la singularité, non pas en tant que figure autoriale, comme dirait Mero Zezon, mais comme assignation de la société à exister par soi-même, à avoir une existence autonome, impose de reprendre en charge le cours d'une vie, de construire une identité narrative, de se confronter à la question du trauma qui est devenue absolument essentielle, et pour beaucoup d'entre nous, de se confronter aussi à la question des discriminations potentielles. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est ce que je vais essayer d'évoquer avec vous aujourd'hui. La littérature est mise au service, hein, en termes à la fois collectifs et individuels, dans un contexte où on ne peut plus séparer véritablement les formes d'écriture amateur, ordinaire, les formes de récit de soi intime, les formes de travail collectif et un travail qui serait profondément différent, qui serait celui d'écrivain qui ne parlerait qu'à l'éternité. Je crois que cette distinction entre la figure du grand écrivain investi par une sacralité et les pratiques ordinaires d'écriture tend à se dissoudre. C'est donc un climat, vous voyez, qui voit bouger beaucoup, beaucoup de catégories, hein, à la fois la définition esthétique de la littérature, l'idée d'inutilité qui était tellement, tellement profondément inscrite depuis le 19e siècle dans ce refus, hein, à la littérature d'être mise au service, d'être instrumentalisée, dans cette résistance extraordinairement forte qui a été le substrat, hein, de l'idée moderne de littérature, au point que, si vous voulez, on hésite même à continuer à utiliser le mot littérature, hein, ce qui témoigne vraiment de cette crise multiple, de l'autorialité, du substrat ontologique de ce que c'est que le littéraire, comme de toutes ces frontières à l'égard des écritures sociales, à l'égard des écritures artistiques, puisqu'évidemment tout ça se fait avec une littérature qui n'a plus besoin de ce livre qui était tellement profondément attaché à ce projet esthétique d'œuvre, hein, qui se dissout désormais maintenant, on l'a manifestement vu tout à l'heure, dans des formes de performance, dans une performativité, à une heure où les approches pragmatiques elles-mêmes, hein, nous fournissent une manière de penser l'action de la littérature. Eh bien, c'est au point que, à la suite du dictionnaire de Aron, Viala, Enco, on peut parler du littéraire, d'un champ du littéraire, on peut parler d'une post-littérature, d'un après la littérature, le mot même de littérature peut devenir, hein, problématique tellement il est attaché à cette histoire lourde du projet esthétique romantique. Alors moi, je plaide en fait pour continuer à utiliser le mot littérature dans un sens très 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 étendu, très inclusif, très extensif, hein, comme vous voulez. Je crois qu'on n'a pas besoin de s'en débarrasser au profit du terme d'écriture, de la literacy à l'américaine. Je crois qu'on peut continuer à utiliser le mot littérature simplement en le séparant de sa construction historique si particulière en France, où il a été associé à des positionnements marginaux, à des formes d'action volontairement restreintes, à des formes de rupture avec l'ère du discours et l'ère de la communication, à un refus d'une action politique autrement que par la subversion des structures du langage. Je crois qu'on doit désassocier finalement, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre que je suis en train de finir, désassocier, hein, littérature et régime esthétique de la littérature pour prendre au fond la longue durée. Parce que si vous regardez sur la très longue durée des pratiques scripturales, pour ne pas employer le mot littérature, avant sa construction esthétique autour de 1800, eh bien, vous pouvez réaccorder, hein, sur la longue durée, des pratiques communicationnelles, des pratiques conversationnelles, des pratiques d'interactivité, d'interaction, hein, qui étaient celles de la littérature avant. Hein, avant ce moment de séparation des autres activités humaines, au moment de séparation des émotions littéraires des autres émotions, au moment de séparation des problématiques littéraires de la morale ordinaire, de la philosophie, eh bien, je crois qu'on peut raccorder, hein, la littérature dans cette idée, elle est vraiment retravaillée par tous ces historiens de littérature qui font de l'anthropologie de l'écrit, hein, qui vous montrent comment au XVIIe siècle la littérature participait de jeux et de relations sociales, d'une Florence Dupont qui vous explique comment l'Odyssée n'était pas un texte d'un écrivain, mais était d'abord une manière d'échanger des contes pour une communauté autour du feu, autour d'un il y a un très 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 beau bouquin qui s'appelle L'Homère à Dallas, où elle explique que l'Odyssée c'est d'abord à comprendre comme une manière de partager un banquet. que la tragédie grecque, c'est une manière de partager un rapport au sacré, hein, un rapport au sacré qui s'est défait avec l'idée d'une littérature moderne qui va être séparée, hein, d'un monde spirituel pour constituer sa propre sacralité, pour constituer son propre idéal, hein. C'est vraiment l'idéalisme kantien. Je crois que toutes ces manières de raccorder, hein, dans une lecture très anthropologique, moi je plaide pour une approche, un retour d'une approche très anthropologique de la littérature, pour raccorder ce rôle de la littérature aux activités ordinaires, aux activités de connaissance ordinaires, aux activités d'action ordinaires, me paraît vraiment pertinent. Alors, dans Réparer le monde, j'ai essayé un peu de cartographier autour de quelque chose qui m'avait vraiment sauté aux yeux au tournant des années 2000, qui était vraiment l'invocation de la littérature pour faire du bien dans une problématique très très étroitement thérapeutique de guérison. Donc le spectre était très polarisé par ces grands textes du début des années 2000, d'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, autour de la question de littérature et soins, autour de littérature et vulnérabilité chez d'autres écrivains, vulnérabilité territoriale, vulnérabilité sociale, vulnérabilité culturelle, autour des questions également de vulnérabilité du sujet par rapport à ce que Ehrenberg nomme la mélancolie d'être soi, la difficulté d'être soi en régime capitaliste, libéral, d'assignation identitaire permanente. Donc j'avais essayé de faire un peu une cartographie, j'avais balayé d'un côté le rôle que la littérature avait eu dans la question de la confrontation de la France à ses fractures géographiques, hein, premier champ que j'avais évoqué, les questions territoriales avaient été vraiment retravaillées par la littérature des écrivains du sang, des Bergougnoux, des Michon, des Millet, mais ensuite de la génération de Marie-Hélène Lafont, hein, qui a voulu compenser, explique-t-elle, l'éloignement, le sentiment d'isolement territorial par une langue, hein, à la hauteur de ces petites gens dont elle parlait, par cette littérature des minuscules en termes de territoire, ou par les écrivains comme François Bon, par exemple, qui parlait d'autres formes, hein, de déshérence territoriale autour de la question de la désindustrialisation de régions entières de la France. C'est vraiment un sujet qui avait été pris à charge par des écrivains qui voulaient relier ces petits provinciaux à la grande littérature, à une grande tradition épique chez Mignon, à une tradition de dignité chez Marie-Hélène Lafont, le mot est obsessionnel chez elle, à une à des formes de longue durée, hein, malheureusement qui ont conduit à des dérives identitaires chez Millet, mais c'était quand même cette inscription, hein, presque mythologique dans une longue durée, qui était une manière de redonner sens à ces oublis territoriaux, à ces fractures territoriales, dans une France qui a infiniment bougé, et ce mouvement de travail des territoires a été puissamment réactivé, hein, ces dernières années. Vous savez, le travail d'un Mathieu, hein, sur les franges périphériques, sur ces non-lieux des Gilets jaunes, le travail d'un Philippe Vasset qui a été évoqué ici, le travail d'un Bruce Bégout aussi sur les non-lieux, très nombreux sur les écrivains qui ont continué, hein, ce travail de réappropriation territoriale, dans des formes très très variées, hein, qui vont du néolyrisme, si vous voulez, chez un Michon, à l'acuité rationaliste d'un Bergougnou, à des formes beaucoup plus expérimentales chez un Philippe Vasset qui va inventer des dispositifs d'investigation cartographique, ou ou encore dans un texte, moi j'ai beaucoup aimé à cette rentrée littéraire, un parking Peggy, hein, qui est une manière de visiter tous les lieux, qui s'appelle Peggy en France, qui est vraiment une manière de retisser, je crois, ces cartographies problématiques. Alors ça, c'était la question géographique. On pourrait vraiment en reparler encore à cette rentrée littéraire. C'est une question très importante, hein, qui est un peu notre manière à la française de faire le spatial turn. Hein. Je vois Bruno qui est là, qui a vraiment travaillé sur ces sujets-là. Ces questions territoriales ont été aussi, pour un certain nombre d'écrivains d'ailleurs, la question de la mondialisation. Comment raccorder cette France déchirée à un sentiment très global d'une responsabilité à distance, d'un lien faible touchant vraiment à une ampleur planétaire, ce qui fait que des gens comme Rollin, des gens comme Carrère ont essayé de parler de ces liens à distance, de parler de cette manière dont la littérature fait écho aussi dans son territoire à un autre champ territorial qui était vraiment ce sens d'une sensibilité étendue. Hein, quand François Bon dans Daewoo montre comment l'ouvrière se connecte à l'ouvrière elle-même à Séoul qui a fait une partie du téléviseur, c'est vraiment ces formes étendues de liens, de connexions qui ont été aussi beaucoup travaillées sur l'écrivain. C'est une autre manière d'approcher, je crois, aussi la question géographique, à la fois dans quelque chose qui est très local, territorial, mais aussi dans une manière de vouloir saisir ce que la globalisation veut dire, hein, pour nos espaces. Et je crois que c'est vraiment une problématique présente. Alors ça, c'est la géographie. Évidemment, à côté, il y a l'histoire. Hein. Je ne vais pas vous rappeler, on a eu un magnifique exposé sur Modiano, à quel point l'ensemble des blessures, des non-dits, des invisibilités historiques, des infamies culturelles ont été retravaillées par la littérature depuis les écrivains parlant comme Guyot à la guerre d'Algérie, jusqu'au travail, et là je pense à Mauvigné aussi, hein, pour des gens plus contemporains, jusqu'à la manière dont on est revenu de manière vraiment fertile, dont on revient continuellement sur la question de la Shoah. À chaque fois, les écrivains ont essayé de travailler dans des lieux où les historiens ne pouvaient pas opérer, hein, dans une perspective très, très foucauldienne. Hein. Il s'agissait de prendre le relais de l'histoire à chaque fois qu'on devait parler des minuscules qui n'apparaissaient pas dans l'histoire conventionnelle, qu'on devait parler de ceux qui étaient, comme avait tenté déjà de le faire Michel Foucault, hein, partagés dans des identités complexes, ceux qui étaient des criminels, ceux qui n'étaient pas les acteurs héroïques, hein, de l'histoire. Et très, très nombreux sont les écrivains qui ont parlé aussi des personnages mineurs dans les drames majeurs, qu'il s'agisse d'évoquer des angles nouveaux, hein, ou qu'il s'agisse de compenser l'absence d'informations historiques en redonnant des formes de vie à ceux qui ont été les victimes de l'histoire. Et je crois vraiment cette volonté de refaire vivre, de réincarner, de donner une vie un peu posthume à tous ceux qui ont été broyés par les chaînes de l'histoire est une des grandes préoccupations contemporaine, qui maintenant c'est vraiment étendu du côté de la question de la colonisation, de la décolonisation. Hein, il y a eu des très très Sylvain Patieu, enfin toute une série d'écrivains se sont intéressés justement aux esclaves, à leur souffrance, ont essayé de leur redonner des noms. Hein, la littérature étant vraiment utilisée ici dans un pouvoir très très fondamental, consistant à dire que nommer correctement les choses, hein, c'est comme le disait Camus, hein, C'est déjà diminuer le désastre du monde. Hein, c'est déjà y remédier que de nommer correctement, que de faire mémoire des noms, que d'aller chercher le nom de Dora Bruder dans la liste des déportés établie par Klarsfeld, que de chercher un minimum d'informations. Là encore, ça ne se fait pas sous un paradigme esthétique univoque. Hein. Ça va d'une écriture très réaliste, très documentaire, historique, historienne, à la Artière, si vous voulez, jusqu'à des formes beaucoup plus inspirées, beaucoup plus métaphoriques chez d'autres écrivains. Hein. Il n'y a pas une modalité unique par laquelle le langage pourrait intervenir sur le monde. On a autant d'inscriptions, de formulations esthétiques ou littéraires ou artistiques, pour éviter le mot esthétique, possible, hein, qu'il y a d'écrivains, mais je crois qu'on peut le réunir hein, sous cette question commune, hein, qui est cette manière d'intervenir dans la mémoire historique, dans la longue durée de nos consciences collectives, pour essayer de compenser ce que l'histoire ne peut pas dire ou ce que l'histoire ne veut pas dire. Hein. Les deux aspects sont très présents, ce qu'elle ne peut pas dire parce qu'on ne sait rien de Dora Bruder ou ce qu'elle ne veut pas dire parce que on n'a pas envie de parler de la manière dont ceux qui ont fait la guerre d'Algérie vivent quelques décennies après ce qu'ils ont vécu. Hein. Les deux aspects sont vraiment très, très communs. Alors cette manière d'intervenir dans ces questions collectives, elle s'étend hein, à la question économique, sociologique, une littérature portant sur le travail, les conditions sociales du travail est désormais très 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 bien étudiée, les travaux de Chloé Chollet, de Marilyn Heck et nombre d'autres que je m'excuse de ne pas citer ont vraiment montré hein, comment le champ contemporain va s'intéresser au travail, à la fois en s'intéressant aux formes les plus douloureuses, les plus minorées, les plus invisibilisées du travail. Hein, dans une entreprise comme Florence Omnaz, qui dans le Quai de Ouistreham va aller jouer dans cette littérature embarquée, comme on dit, va aller jouer le rôle d'une intérimaire du nettoyage, jusqu'à des formes qui vont au contraire s'intéresser aux formes de travail dans le capitalisme glorieux et victorieux. Hein, Eric Reinhart est capable d'analyser, de démonter hein, les mécanismes de fonctionnement des grosses structures, des grosses sociétés modernes et la manière dont les individus sont confrontés en régime de libéralisme individualisme et de cette phase du libéralisme qu'on appelle le libéralisme créatif, hein, cette sorte d'ultime étape dans laquelle on a une hyper-responsabilisation de l'individu avec cette lourdeur, cette dimension écrasante de cette assignation à être non seulement productif mais inventif, à créer un parcours de vie. Ce sont vraiment des questions que des écrivains, pour citer un exemple récent, un Choral dans la spirale de Message, vont vraiment prendre en compte. Donc ce sont les formes variées hein, de la condition ouvrière autant que du grand capitalisme qui sont interrogées par une littérature sans aucun rapport de nostalgie et sans forcément un rapport critique. Hein. On est souvent dans un geste descriptif d'analyse qui, je crois, n'est pas uniquement une manière de critiquer la société consumérisme et les modes d'échange productivistes d'aujourd'hui. La question qui est clairement posée, qui est celle du chômage et de la crise, est évidemment présente. Et de ce point de vue-là, la littérature répond, est une sorte de réponse, de dernier recours. Hein, lorsque les politiques économiques ont échoué, finalement, qui reste-t-il pour parler et la littérature est de plus en plus invoquée là où on n'a plus d'autres discours disponibles, finalement. Hein. On envoie les écrivains. Il y a ce film, je ne sais pas si vous avez vu ce film, L'Atelier, assez formidable, où on envoie une écrivaine parisienne à Pôle emploi à Marseille pour des jeunes qui sont sans travail. Et on les fait travailler à écrire des récits en espérant remédier par la littérature à l'absence d'emploi. La littérature est vraiment mise au service d'une réflexion sur la crise, sur les reconfigurations modernes du travail, toujours dans la préoccupation collective. Il y a un an que je n'ai pas tellement développé dans mon essai, mais qui est vraiment très, très travaillé par ailleurs, c'est que la littérature va poser la question de l'écologie, hein, va poser la question des liens qui se sont défaits, des liens qui se sont défaits avec la nature, avec les animaux. Et là encore, à quoi sert la littérature? Elle sert à mettre en commun, à rapprocher, à se projeter, à échanger des postures de manière par le truchement de l'imaginaire avec des arbres, avec des animaux, avec des animaux qui vont à l'abattoir. Et de ce point de vue-là, une grande partie de l'écriture écologique, on travaille maintenant beaucoup par l'écocritique, est une manière d'utiliser la littérature pour augmenter notre sensibilité ou pour au moins la réactiver, la ressensibiliser à ce lien avec notre environnement que nous avons perdu. Et je crois que c'est vraiment fondamental dans les textes aujourd'hui qui peuvent prendre des options néo-réalistes critiques à la Delamo, qui peuvent prendre des versions beaucoup plus lyriques. On a une très 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 belle communication sur la manière dont la poésie, hein, désormais à travers les formes d'éco-poétique. On a évoqué Fabienne Raffos, par exemple, dont la littérature poétique faisait en particulier ce travail en utilisant des affinités imaginaires très, très belles entre l'écrivain et l'oiseau. Donc les formes d'intervention peuvent vraiment être du côté de l'expression poétique comme du grand travail descriptif, hein, qui peut être entrepris parallèlement. Mais là encore, hein, la question écologique comme problème et comme lieu où la littérature peut apporter, si ce n'est des éléments de solution, du moins un discours de dévoilement et un discours de remédiation partielle. Parce qu'il s'agit non seulement, hein, de montrer, d'exposer, de nous faire rentrer dans un abattoir, de nous faire rentrer, comme le fait Arnaud Bertina, dans une usine où on fait des poulets industriels, hein, mais il s'agit aussi de montrer que la lecture littéraire, la projection que la littérature permet de soi dans un monde autre, dans un monde autrement humain, la projection dans un personnage, mais aussi peut-être dans des formes de vie naturelles, des formes de vie non humaines, permet de ressouder ces continuités qui ont été détruites entre l'homme et le restant du vivant. Alors, ça, ce sont des grandes questions collectives. D'autres encore sont présentes, hein, du côté de rapport à l'altérité, autour de la question des migrations, présentes. Je crois que on pourra, si on a deux minutes, en discuter. C'est un des volets, c'est vraiment cette action collective de la littérature qui est favorisée, comme ce colloque l'a beaucoup évoqué, par maintenant un écrivain qui est invité par les pouvoirs publics, par les institutions, qui est amené à travailler sur projets, et des projets qui sont souvent des projets destinés à des communautés fragiles, à des personnes vulnérables, qu'il s'agisse d'aller parler, de faire des récits à des gens dans les EHPAD, ou à travailler avec des jeunes au contraire, mais en tout cas, très très souvent, l'écrivain vit, au fond, vit de ses commandes, vit de cette manière dont, comme ça, on va lui demander de construire un projet autour d'un lieu, d'une communauté, d'une difficulté, d'une problématique. Et je crois que c'est devenu vraiment une partie du métier d'écrivain, hein, du métier d'écrivain. Toute chose qui semblait vraiment très étrangère à l'écrivain comme phénix, comme mage, comme prophète ou comme marginal. Maintenant, désormais, dans le métier d'écrivain, il y a ce travail, tout simplement parce que le métier d'écrivain, c'est maintenant un métier où les écrivains vivent beaucoup plus de leur résidence d'écriture, de ce type d'invitation, que de la vente de leurs livres. Hein. Je crois qu'il y a aussi des raisons économiques à ce retour d'une utilité, hein, de l'écrivain dans la cité. Alors l'autre dimension, elle est, je crois, tout à fait aussi forte, c'est la manière dont la littérature est invoquée dans la construction ou la reconstruction individuelle ou de groupe ou d'identité collective. Je crois que les années 60, 70 aux États-Unis, puis dans les années 90 en France, ont vu émerger toute une réflexion autour de la question du trauma, qui s'est vraiment imposé comme étant un mode de compréhension avec les trauma studies, hein, de ce que les formes artistiques pouvaient faire à l'histoire individuelle, bon, aussi à l'histoire collective, mais essentiellement à l'histoire individuelle, puisque c'est d'abord un bagage freudien, ou plutôt Ferenczi sur le trauma, mais en tout cas un bagage psychanalytique qui est à l'origine, hein, de la réflexion sur le trauma. Et on a pris conscience vraiment de la manière dont la littérature était, à travers le témoignage, comme à travers des formes beaucoup plus élaborées de mise en narration très complexes, une manière de se réapproprier des identités brisées par le viol, l'inceste chez Angot, par le meurtre chez Chloé Delhomme, par des formes de violence et de discrimination très très présentes dans l'actualité littéraire de cette rentrée, hein, des choses humaines de Karine Thuil à une histoire de France de Geoffrine, je sais plus comment, cette question vraiment des formes d'intervention du récit sur l'expérience individuelle traumatique est vraiment une question désormais fondamentale dans notre manière de comprendre ce que les écrivains contemporains produisent. Il est difficile de voir une rentrée littéraire sans voir à la fois tous ces textes sur le territoire et tous ces textes sur ces histoires individuelles, ces récits de deuil qui ne cessent de pleuvoir, hein. Forest ironise un peu là-dessus en disant que chaque rentrée littéraire amène son contingent de récits de deuil. Je me suis amusé dans mon essai à faire une petite liste, c'est par dizaines et dizaines et dizaines, avec tout un bagage théorique qui s'est construit autour de la notion de trauma et les travaux, par exemple, de Michel Petit, à travers l'idée que la symbolisation par l'écrit permettait un déplacement. Hein, le recours à des dispositifs énonciatifs complexes, à la fictionnalisation, permettait de se déprendre d'un trauma, d'une histoire qui serait trop écrasante. Hein. C'est ce qu'explique formidablement bien Chloé Delhomme, dans lequel elle explique qu'elle ne peut être qu'une fiction après ce qu'elle a vécu, hein, l'assassinat de sa mère devant elle. La littérature comme dispositif est vraiment un dispositif très, très clairement thérapeutique. Alors c'est très fortement lié à la question féminine dans le champ littéraire contemporain, mais de manière générale, on peut rattacher à ces écritures de trauma la manière dont une certaine philosophie du sujet française, celle d'un Ricoeur en particulier, avait insisté sur la manière dont on ne pouvait faire tenir ensemble de manière vivable les événements d'une vie qu'en mettant à la disposition de notre conscience un récit. Donc de manière vraiment générale, hein, par-delà ces questions brutales, disons, quel récit produire après un viol, typiquement, hein, pour prendre une question très très travaillée par la littérature aujourd'hui, quel type de récit engendre le viol, quel type d'écriture. Bon, en dehors de ces questions particulièrement douloureuses, la question de la manière dont l'écriture va être mise au service d'un retravail d'une trajectoire individuelle, dans ce qu'elle peut avoir de particulier, d'une construction identitaire, dans ce qu'elle peut avoir toujours de complexe, à un moment où règne à la fois l'assignation identitaire et la pluralité de l'identité. C'est vraiment très très bien étudié par les sociologues, hein, Martuccelli, etc. La difficulté à avoir une homogénéité, de pouvoir dire « je viens d'eux », hein, face à cette difficulté à assigner une origine unique, à être toujours obligé de prendre en compte des liaisons familiales, des ruptures de filiation, tellement bien analysées par un Laurent de Manze, cette manière dont l'individu contemporain doit faire face à la complexité du sujet et en même temps à son obligation de se dire comme individu, les formes de récit vraiment sont très 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 couramment invoqué, hein, comme manière de tisser, hein, le texte, tissu, métaphore qui vraiment traîne partout, mais qui nous dit cet usage vraiment qu'on fait maintenant des récits. Alors, bien sûr, on peut faire une distinction, là encore, entre les formes d'écriture dites ordinaires, les formes d'autobiographie que retrouve Lapa, les formes de récits de vie que Rosan Vallon avait essayé de recueillir dans « Raconter la vie », « Au seuil », et des formes de réélaboration très complexe, très ambitieuse, des expériences littéraires très, très uniques. On parlait de celle de Chloé Delau, mais elles sont innombrables, souvent à la limite de la performance. On en a évoqué quelques-unes. On pourrait rajouter des noms comme celle de Valérie Mregen, dans ce travail vraiment de l'histoire individuelle performée, ou à la limite de l'art sophical, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas de solution de continuité, au fond, entre la manière dont, de manière modeste, quelqu'un va vouloir raconter son histoire en essayant d'utiliser l'écrit pour donner une certaine intensité, une certaine vie, en utilisant l'écrit, le détour d'une métaphore, d'une comparaison, pour essayer de se décoller de récits trop déterministes qui pèseraient sur le sujet pour peut-être inventer quelque chose qui serait une forme de vie un peu propre, un peu spécifique, et d'autre part, la tradition expérimentale des avant-gardes. Je crois vraiment que on peut pas opposer quelque chose qui serait vraiment un usage instrumental de storytelling chez les écrivains à des grands écrivains qui, eux, vraiment mettraient en crise le récit de vie, en imposeraient des formes disruptives qui auraient vraiment, comme le disait Barthes, à se confronter avec le langage comme problème. Je crois vraiment qu'il faut peut-être rattacher, hein, tous ces usages de l'écriture. Bien sûr, certains marquent un héritage culturel, des formes de talent, des formes d'inventivité qui vont nous intéresser peut-être plus. Hein, et peut-être que nous sommes maintenant voués à continuer à choisir parmi ces formes celles qui vraiment vont le plus loin. Mais je crois que la manière dont on va creuser et retravailler l'expérience en littérature ne peut plus opposer les écrivains et les écrivains, que la manière dont les écrivains vont renoncer parfois aux grands attributs du style littéraire, vont faire œuvre de modestie, que ce soit dans des formes simplement de documentation modeste ou d'écriture simple, d'écriture à la Annie Ernaux, hein, qui a refusé, qui a tourné le dos au caractère élitiste, discriminant de la grande prose, pour rejoindre des formes d'écriture plus familières. Je crois vraiment qu'il y a, une unité, si vous voulez, une unité des formes d'écriture qu'on doit vraiment prendre en compte. Il n'y a pas de bon et de mauvais, de mauvais récits de deuil. Il y en a certains qui nous semblent mieux correspondre à nos critères esthétiques, qui nous semblent aller peut-être plus loin dans l'introspection, mais est-ce forcément ce que nous verrons dans les grandes maisons d'édition? N'est-ce pas aussi ce qu'on peut trouver dans l'Association pour l'autobiographie? Est-ce qu'on peut vraiment faire des tracer des frontières entre une littérature littéraire, comme dit Pierre Michon, une littérature non littéraire? C'est vraiment une question que j'offre à vous et qui se pose face à ces formes d'action, d'intervention, d'opération littéraire. Alors, tout ça se fait avec la mobilisation de ressources théoriques et de ressources critiques nouvelles. Hein, ce colloque était consacré à la manière dont on a rattrapé finalement ces questions d'engagement, ces questions d'intervention politique de la littérature, avec toujours vraiment ce conflit entre ce modèle esthétique où il y aurait une politique propre de la littérature et un modèle commun où la littérature, en réalité, quand même partagerait avec d'autres formes de politique ces formes d'action. Moi, je plaide contre Rancière. Hein. Je pense qu'il n'y a pas qu'une politique du langage. Une gradation dans des formes d'engagement, passant par la description, passant par la représentation. Hein. Moi, je suis pas dans la manière de sauver une politique qui serait seulement une politique de la mise en crise. Hein. Je suis très très en désaccord avec mon ami Dominique Viard là-dessus, hein, qui oppose des écritures concertantes. Hein, aux écritures plus critiques. Je crois que vraiment on n'a pas à sauver une littérature critique et sauver une politique qui serait juste une politique du langage. Hein, je crois qu'il y a les formes politiques sont très 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 variées, très graduées, très nombreuses et qu'elles sont intéressantes à plus d'un titre. C'est d'autres outils aussi qu'on mobilise. J'évoquais tout à l'heure la manière dont on avait utilisé les outils de la psychanalyse, les outils de la philosophie du sujet, de Ricoeur, de Charles Taylor, les outils de la philosophie du langage ordinaire aussi ont pu être mobilisés pour comprendre ce que les mondes possibles font bouger hein, dans les représentations. Le travail qu'on mène parfois avec les sciences cognitives est aussi une manière de montrer comment un phénomène comme celui de la catharsis hein, est peut-être un phénomène qui mérite d'être recompris maintenant comme nous permettant de comprendre un substrat physiologique finalement à la lecture littéraire, à l'émotion littéraire, à l'émotion théâtrale. On a aussi beaucoup mobilisé aux États-Unis les théories de l'empathie, hein, la philosophie de l'empathie, hein, comme étant une forme de politique que pouvait proposer la littérature, les théories philosophiques de la projection dans le personnage, comme manière de construire un rapport à l'altérité, comme une manière de se vivre du point de vue de n'importe qui, comme une sorte de désancrage dans un égoïsme, dans des particularismes, au profit d'une visite, d'une projection, d'une manière de ressouder la continuité, d'explorer des formes de vie qui ne sont pas les nôtres, parce que c'est celle de l'autre sexe, celle de celui qui est dominé. On mobilise, si vous voulez, des outils très, très variés pour comprendre, pour légitimer, hein, ces formes d'action de la littérature. Je n'ai pas eu le temps de rendre hommage au travail de Myriam, hein, qui s'en va là au moment où j'aurais pu parler de ces formes. Allez-y. De lecture insistant sur un rôle spirituel, pourrait-on dire, de la littérature dans son rapport métaphysique à la mort, à la finitude. Hein. On n'est pas que dans la manière dont on met des ouvriers au chômage, on est aussi dans la manière dont la littérature va poser la question des limites, hein, des limites de l'humanité. Il y a dans la question du rapport à la maladie, évidemment, quelque chose de très concret, de cet écrire pour survivre, mais il y a aussi une interrogation beaucoup plus métaphysique qui est nécessaire désormais de prendre en compte, tout simplement parce que la littérature vient au relais de systèmes symboliques qui ne sont plus là. Maintenant, dans les offices funéraires, quand il n'y a pas de rite, on vous distribue des poèmes à lire pour un enterrement. Hein. On a besoin des poètes, on a besoin des écrivains pour parler de la question de la mort, tout simplement parce qu'on n'a plus le prêtre disponible. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi cette prise en charge, hein, de questions métaphysiques lourdes et pas seulement de questions socio-économiques concrètes. Hein. Je crois vraiment que, de ce point de vue-là, le retour d'une pensée humaniste de la littérature comme une forme de sagesse, hein, participe de cette manière de trouver des instruments de compréhension de ce que la littérature fait, et en réhabilitant ce paradigme humaniste dans lequel la littérature est intimement liée à ces questions métaphysiques de l'usage de la maladie, du rapport à la mort, c'est aussi une manière de comprendre pourquoi il y a tous ces récits de deuil. Hein. Il y a évidemment, en des termes très, très concrets, les opérations cathartiques, comme dit Carrère, ça va mieux en le disant, hein, la question du deuil, mais il y a aussi quelque chose plus lourd, qui a un rapport avec la manière dont, comme disait Alain, le tombeau est le père des signes, dont le tombeau vient, dont l'écriture vient suppléer l'absence, dont l'écriture vient se faire tombeau. Il y a assurément quelque chose lié à la fonction vicaire du langage qui se joue fortement, hein, dans cette littérature de deuil et ce rapport de la littérature à la mort. Donc vous voyez, au fond, l'ampleur, hein, des questions, des problèmes que la littérature peut prendre en charge. J'ai travaillé récemment sur encore un autre sujet qui était la littérature et les attentats, où on a vu qu'au bout de quelques années, les écrivains se sont aussi emparés de cette question, là encore. Pourquoi ? Pour retisser les liens entre les victimes, pour se réapproprier l'histoire douloureuse chez Lançon, grand récit de réparation, pour essayer aussi de se mettre du point de vue ou comprendre aussi le criminel, comprendre aussi des terroristes. Certains écrivains ont essayé de les penser aussi, qui est aussi une manière de refaire communauté, de ne pas casser la condition humaine entre le bon et le méchant, toutes ces entreprises, hein, de refaire communauté, de refaire humanité, de refaire personne, hein, de refaire corps, chez Lançon, très concrètement, ont été prises en charge par les écrivains. Là encore, avec des modalités très, 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 très variées, hein, d'une écriture autobiographique, néo-rousseauiste, chez Lançon, à des formes plus expérimentales chez Elvin Larrer. Mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas une des questions liées à nos crises économiques, culturelles, contemporaines, qui désormais ne soit pas vraiment investie par la littérature, qui devient une littérature d'objets, une littérature de questions, une littérature de problèmes. Hein. Elle n'a pas peur de prendre en charge, comme le fait Maïs de Kerangal, une grande question éthique de réparer les vivants, la question de la greffe. Elle n'a pas peur de prendre un grand sujet en charge par l'écriture, de prendre une grande question territoriale chez Aurélien Bélanger, une situation particulière. Elle n'a pas peur vraiment d'être une littérature à objet, à sujet, à thème. Quelque chose qui aurait dégoûté, si vous voulez, les écrivains de l'aventure de l'écriture il y a encore une trentaine d'années. Hein. Donc cette littérature prend des sujets. Pour nous, nos réactions peuvent être très, très, très différentes. Moi, je l'ai constaté dans la réception du livre, qui a tour à tour été considéré comme un livre dans lequel je condamnais au fond, Philippe Villain a écrit ça. C'était une condamnation de toutes ces écritures qui banalisaient le grand projet idéaliste de substituer au monde ordinaire un monde meilleur par le langage, de le dépasser, de l'élever, substituer à ce grand projet idéaliste un réalisme, un pragmatisme, un empirisme des problèmes que l'écrivain mettait en récit, au contraire, des écrivains plutôt de gauche, au nom de ce projet de radicalité de la littérature, Philippe Forest, la littérature ne répare rien au désastre de vivre, ont pu critiquer aussi ce geste au nom de cette littérature restreinte construite au 19e siècle, qui ne devait être qu'une crise, qui ne devait être qu'un défi, qui ne devait être qu'un problème et jamais apporter de solution, au nom de ce rapport intime que la littérature aurait avec le mal, avec la difficulté, avec la souffrance. Hein, l'idée qu'une littérature puisse apaiser, puisse faire du bien, a pu aussi choquer dans un courant qui n'est pas la droite réactionnaire regrettant une aristocratie de la littérature, mais un courant de gauche regrettant une subversion perdue du monde par la littérature. Donc nos réactions peuvent continuer à être assez critiques. On a tout lieu également d'être prudent, d'être méfiant à l'égard de ces romans, ces feel-good novels, de cette littérature qui fait du bien par une évasion banale, de ces littératures de développement personnel, de cet usage de la littérature comme une forme de développement personnel. On a le droit d'ironiser, hein, sur la bibliothérapie de notre ami comment s'appelle-t-elle déjà, j'ai oublié son nom. Bref, on peut ironiser sur la bibliothérapie, sur cette manière que la société aurait, lorsqu'elle ne sait plus quoi faire, d'aller chercher un écrivain. Finalement, hein, on peut discuter. Ceci dit, il me semble que c'est vraiment ces dernières rentrées littéraires très, très centrées sur la question des rapports entre littérature et discrimination, en particulier, l'ont rappelé. Je crois qu'on ne peut pas éviter, hein, ce tournant massif de la littérature, cette sortie très, très claire de son paradigme esthétique, et ces questions posées à la place d'un critique littéraire, à la place de l'université, désormais dans le jeu social, dans l'ensemble des disciplines, ces formes de partenariat intellectuel, cognitif, qu'on attend de la littérature, herméneutique, qu'on attend de la littérature, désormais peuvent donner lieu à des rapprochements, des interactions disciplinaires. Et comme c'est quand même un congrès de d'enseignants-chercheurs et chercheurs, c'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer. C'est vraiment une réflexion qui s'esquise, hein, sur la manière qu'on peut avoir de dialoguer avec la société et avec les autres, autant qu'avec les autres disciplines du savoir. Voilà. Merci beaucoup à tous.